C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Violette.
Bonjour Imran, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'ingénierie aéronautique et spatiale. Quelle est la mission des satellites? Qui sont les personnes qui les construisent et comment sont-ils contrôlés?
Notre invité du jour pour en discuter est Alexandre Skripsak, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de l'ENSICAN et responsable de la formation électronique, communicante et systèmes embarqués.
Mais tout de suite, notre flash avec les infos sciences de la semaine.
On commence avec une information de santé publique. De nombreuses femmes avaient récemment alerté les autorités sanitaires en raison d'un déséquilibre de leur cycle menstruel après avoir été vaccinées. Cycle décalé, règles plus douloureuses ou plus importantes que d'habitude, différents types de perturbations du cycle menstruel avaient été constatés. Mercredi dernier, la revue scientifique Obstetrics and Gynecology a publié une étude rassurante à ce propos. Les chercheurs ont utilisé les données de femmes de 18 à 45 ans n'utilisant pas de contraception, renseignées sur une application servant à surveiller les cycles menstruels. Ils ont comparé la durée des cycles de 2400 personnes vaccinées, en majorité avec Pfizer mais aussi avec Moderna, à ceux de 1500 femmes non vaccinées. D'après les résultats, le cycle menstruel peut être légèrement rallongé d'un peu moins d'un jour, juste après avoir reçu un vaccin contre la Covid-19. Il s'agit donc d'une perturbation temporaire et sans gravité. Les médecins rappellent que sur un cycle qui dure en moyenne 28 jours, tout changement inférieur à 8 jours peut être considéré comme normal, sachant qu'un stress peut engendrer des perturbations du cycle.
La semaine dernière, nous vous avions parlé de l'éruption du volcan des îles Tonga. L'explosion volcanique avait provoqué un important tsunami touchant les côtes de certains pays à des milliers de kilomètres. 11 jours plus tard, les dégâts se font toujours ressentir. Les très fortes vagues ont déstabilisé un pétrolier en plein déchargement dans une raffinerie au large de Lima, la capitale du Pérou. 6000 tonnes de pétrole se sont répandues dans l'océan Pacifique et sur les plages péruviennes. La catastrophe écologique fragilise l'écosystème d'une faune et d'une flore particulièrement sensibles. Certains oiseaux ont été trouvés morts à plus de 120 km du lieu de la marée noire. La pêche est donc interdite dans la zone touchée. Surfrider Foundation Europe parle d'une véritable inquiétude et Pedro Castillo, le président du Pérou, tient pour responsable des dégâts financiers, environnementaux et touristiques la société pétrochimique Repsol.
Le glacier Thwaites en Antarctique est en danger et c'est une mauvaise nouvelle. Celui qu'on appelle aussi le glacier de l'apocalypse se fond dangereusement et cela représenterait une catastrophe pour la planète. Ce glacier est immense, il fait 120 km de large pour 600 km de long et 3 km de profondeur, c'est environ un tiers de la France. Le glacier préoccupe les scientifiques depuis longtemps car sa structure en elle-même est fragile, il repose sur un socle rocheux sous la calotte glaciaire et depuis 2021 il est touché par le réchauffement climatique. De nombreuses fissures ont été signalées, mais surtout des courants d'eau chaude se glissent sous la plateforme flottante entre la glace et la roche. Les températures de l'eau sous le glacier sont environ de 2 degrés au-dessus du point de congélation. Si l'ensemble du glacier venait à fondre, cela ferait augmenter le niveau de la mer de 65 cm. Mais le problème pourrait être plus grave car la disparition de Thwaites entraînerait la fonte d'autres glaciers que le géant bloque compte tenu de sa disposition.
Depuis maintenant 4 jours, Jean-Jacques Savin, l'aventurier français de 75 ans, n'a plus donné signe de vie aux membres de son équipe. Parti faire la traversée de l'Atlantique à la rame à bord de son canot nommé l'Audacieux, il se trouvait au large de l'île portugaise de Madère lorsqu'il a lancé 2 balises de détresse. L'embarcation a été retrouvée vendredi 21 au petit matin par un navire marchand qui a déclaré que l'homme ne s'y trouvait plus. Dès lors s'en est suivie une confusion. Les proches du septuagénaire avaient indiqué vendredi l'avoir retrouvé sans vie dans la cabine de son canot, avant un revirement de situation de la part de la marine portugaise, déclarant que le canot était vide et que ce dernier était en fait toujours porté disparu. À ce jour, personne ne sait où se trouve le corps de l'aventurier malgré les recherches.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
L'industrie aéronautique et spatiale est un moteur de l'économie française. C'est aussi un atout stratégique pour notre pays. On compte environ 4480 sociétés appartenant à cette filière qui emploie près de 263 000 salariés. L'aéronautique français est aussi connu pour Airbus, symbole de la collaboration européenne dont beaucoup de monde connaît le nom. Mais très peu savent en revanche comment les satellites sont construits et contrôlés depuis la Terre pour être lancés dans l'espace.
Pour nous éclairer sur le sujet, nous accueillons en studio Alexandre Skripsak. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'ENSICAN, responsable de la formation électronique communicante et systèmes embarqués. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre les secteurs de l'aéronautique et le secteur aérospatial qui sont bien souvent associés l'un à l'autre ?
Effectivement, on a tendance à parler de l'industrie aéronautique et spatiale. En fait, ce sont deux secteurs connexes. Hein. Voilà, c'est deux industries qui sont complémentaires l'une de l'autre. Effectivement, on n'est pas aux mêmes distances. Hein. Effectivement, quand on est dans le spatial, on a besoin de contraintes beaucoup plus importantes que dans l'aéronautique. Encore que dans l'aéronautique, c'est d'autres contraintes qui apparaissent. Mais globalement, effectivement, on trouve beaucoup d'entreprises de la région, même en France, qui travaillent à la fois pour le secteur de l'aéronautique et l'aérospatiale.
Et dans ces industries, il y a des ingénieurs qui y travaillent. Mmh. Quelles sont leurs missions ? Que fabriquent-ils ?
Alors, vaste question, parce que effectivement, l'aéronautique et l'aérospatiale, c'est effectivement la mise en commun de beaucoup de compétences très différentes. Tout le monde a en tête la conception des engins lanceurs, hein, les fusées, voilà. Tout le monde voit à peu près à quoi ressemble un satellite, mais en fait, c'est des matériaux vraiment particuliers qu'il faut mettre en place, qui résistent en fait aux conditions extrêmes d'avions qui sont en vol, hein, qui sont soumis à des températures soit très hautes, soit très basses, à des pressions soit très importantes, soit très faibles. Et pareil pour le spatial. Donc effectivement, il y a des compétences très fortes sur les matériaux. Voilà, des ingénieurs qui ont besoin de compétences très fortes sur des matériaux qui sont résistants et qui permettent de faire effectivement ces missions spatiales. Et il y a besoin aussi, alors ça c'est plus ma partie, effectivement, de savoir aussi comment se passe la mission à distance. C'est-à-dire quand on lance un satellite, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, il n'y a personne dedans. Et il faut trouver des systèmes pour savoir comment ça se passe au sol, pour être sûr que le satellite est sur son bonne orbite, s'il n'y a pas de problème particulier, voilà. Enfin, ça, c'est tout un pan aussi d'ingénierie qui est très, 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 très important. Et ce qui est derrière ça, il y a aussi besoin de systèmes logiciels complexes aussi, hein, qui permettent aussi de pouvoir créer des systèmes de contrôle au sol assez poussés et qui permettent en fait d'avoir un système tout en un pour les clients type, je pense à l'Agence spatiale européenne par exemple, l'ESA, qui a besoin de systèmes clés en main et qui ont besoin de savoir ce qui se passe quand ils lancent un lanceur, voilà, ou une fusée.
Alors, vous nous avez donné des exemples de type la fusée ou le satellite qui appartiennent à l'aérospatiale, mais quels sont les types d'engins de l'aéronautique sur lesquels on peut travailler en tant qu'ingénieur ?
Alors, tout ce qui est avion, tout ce qui est aéronautique, effectivement, là-dessus, c'est les problèmes que je vous ai cités de savoir ce qui se passe à distance, ça vaut exactement aussi pour l'aéronautique. À savoir que quand Airbus, par exemple, je prends le cas d'Airbus, Airbus souhaite lancer un nouvel avion, ils construisent pas, ils le construisent et il faut toute une batterie de tests derrière pour vérifier que toutes les conditions de sécurité en vol sont respectées. Et donc, ce que les gens ne savent pas a priori, c'est qu'il y a des mois et des mois d'essais qui sont faits en amont avec des systèmes qui sont développés par des entreprises en général françaises en plus, qui permettent en fait de valider que la structure de l'avion fonctionne bien, enfin qu'elle n'a pas été touchée, que tous les systèmes de capteurs qui sont aussi aux alentours aussi fonctionnent bien, que tout ça est bien collecté, que l'avion ne subit pas de contraintes particulières trop stressantes, hein, au niveau des ailes par exemple, ou de la carlingue. Voilà, donc il y a des sociétés et des ingénieurs du coup qui travaillent très précisément sur ces problématiques-là.
Alors on parlera tout à l'heure un peu aussi de la manière de tous ces tests qu'il y a à faire sur les pièces de l'aéronautique et de l'aérospatiale, mais de la conception de l'objet à ses tests jusqu'à son
envol,
sa commercialisation,
ça peut prendre combien de temps ?
J'ai travaillé pendant un moment en collaboration avec Airbus, donc on a un peu discuté avec ces problématiques-là. Alors, ce qu'ils me disent, c'est que avant, il y a une dizaine d'années, c'était aux alentours de 2 ans, on va dire, entre la conception, sortie du premier prototype et la commercialisation. Mais ce qui est demandé de plus en plus maintenant, c'est comme il y a une grosse concurrence, hein, effectivement, Boeing et puis les constructeurs brésiliens et chinois aussi, hein, qui commencent à sortir leur propre programme aussi en aéronautique et en aérospatiale, ça a tendance plutôt à se réduire, hein, voire moins d'un an, hein, plutôt maintenant. Hein. Donc effectivement, c'est une course, c'est une course à l'efficacité.
Voilà. Je parlais de conception, justement, ça, c'est l'étape de conception qui arrive avant justement quand ça se concrétise, c'est-à-dire en usine. Les ingénieurs, est-ce qu'ils s'inspirent de pièces déjà existantes ou est-ce que justement ça demande un travail aussi de réflexion et
Alors,
c'est pas comme dans l'automobile.
Il y a un peu de ça quand même, effectivement. Hein, le but n'est pas non plus de reconstruire tout à zéro. Hein, voilà, c'est des entreprises aussi qui cherchent un petit peu à optimiser aussi leurs coûts, hein, le coût de fabrication de certaines pièces. Donc, ils ont tendance à reprendre une partie de ce qui est déjà existant. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est que les nouvelles technologies actuellement, les nouvelles générations, bah, on est plus sur des choses en lien avec le biomimétisme, par exemple. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'inspirer de plus en plus de ce que fait la nature pour concevoir un avion, par exemple. Dans la structure des ailes, hein, moi, j'ai déjà vu des choses à ce sujet-là. Effectivement, on regarde ce que font les vols d'oiseaux, en fait. Hein, le fuselage qui se rapproche de plus en plus d'une aile. Là, on voit ce qu'on appelle des winglets, maintenant, sur les côtés des ailes des avions qui se relèvent, hein, en cours de vol. Ça, c'est pour, effectivement, c'est ce qu'on a pu observer dans le vivant aussi. Hein, voilà, c'est pour limiter les pertes d'énergie, hein, donc optimiser la consommation en carburant. Donc voilà, on a tendance vraiment à reprendre une base existante, mais en ajoutant, effectivement, bah, des choses nouvelles, parce que les technologies évoluent aussi. Les demandes sont différentes, hein, désormais, hein, où on cherche plus forcément la performance à tout prix, mais peut-être plus des engins qui sont un peu plus, qui consomment moins, voilà. Et donc, on a tendance à s'inspirer de ce qui existe dans le vivant pour essayer de minimiser un peu ces problèmes-là.
Et alors, si on retourne un peu sur les satellites, comment est-ce qu'on va les utiliser dans notre vie quotidienne, nous, en tant qu'humains, comment ils vont nous impacter et comment on s'en sert?
Alors, quand on parle d'espace, c'est vrai que la plupart des gens pensent aux astronautes, à Thomas Pesquet, voilà, qui est un formidable ambassadeur, effectivement, de cette industrie-là. Mais dans la vie de tous les jours, vous vous rendez pas forcément compte, mais il y a effectivement énormément de choses qui utilisent les satellites. Je pense tout bêtement au GPS. Voilà, le GPS, que quand vous êtes perdu en ville, vous savez pas trop où aller, en fait, vous allez capter des signaux qui viennent de satellites. Il y en a une quarantaine autour du monde, effectivement, et qui permettent effectivement de localiser une position particulière sur une carte. Il y a ça, il y a la météo, hein. Mine de rien, la météo, effectivement, tout ce qui est prédiction météo, c'est utilisation d'images satellites, et derrière ça, analyser les flux d'air pour pouvoir faire une prévision météo. Il y a les télécommunications, qui est vraiment un gros, gros, gros secteur aussi pour les satellites. La grosse majorité des satellites qui sont en orbite autour de la Terre, ce sont des satellites de télécommunications. Donc, soit pour la téléphonie, soit pour la télévision. Hein, il y a la télévision satellite, c'est une grosse part, effectivement, de l'utilisation des satellites. Et il y a toutes les missions aussi qui sont pour la compréhension, pour la physique vraiment, la physique du vivant et de la formation de la Terre, par exemple. Voilà, donc pour comprendre comment s'est formée la Terre, comment est apparu le vivant, effectivement, très souvent, faire des missions et des expérimentations à des conditions particulières, hein, sans apesanteur, tout ça, effectivement, permettent de mieux comprendre comment est formé le vivant et comment s'est formé les planètes, comment sont formées les galaxies, tout ça. Voilà.
Alors, il y a eu la conquête spatiale dans les années 60, mais depuis quelle époque l'usage du satellite est devenu massif?
Très honnêtement, ça doit être fin des années 90, début 2000, avec vraiment l'explosion des télécommunications.
Hein, c'est les télécommunications qui ont accéléré l'utilisation.
Effectivement, encore une fois, là, j'ai vérifié. Alors, il y a un petit site que vous pouvez trouver sur Internet qui permet de savoir où se trouvent les différents satellites qui sont autour de la Terre. Il y en a beaucoup. Hein, il y en a plus de 2000, il me semble. Hein, je sais plus le chiffre exact. Mais la grosse majorité, effectivement, ce sont des satellites pour les communications. Voilà. Donc, pour la télévision en particulier. Hein. Alors c'est vrai que c'est assez minoritaire en France, mais dans d'autres pays, effectivement, la télévision satellite, c'est quasiment la seule moyen de recevoir la télévision. Voilà, je pense par exemple à l'Australie, il me semble, l'Australie, effectivement, qui est un continent assez particulier, où l'intégralité de la population vit à moins de 50 km des côtes, et donc il faut un système qui diffuse massivement sur une grande zone, et ça, effectivement, le satellite permet de le faire.
Donc, l'usage du satellite va dépendre de certains pays. Certains pays vont utiliser plus les satellites que d'autres.
Exactement, c'est ça.
Alors, quelle est la différence entre l'usage civil et l'usage militaire des engins aéronautiques et spatiaux ?
Alors, effectivement, oui, là, vous faites bien de parler de l'aspect militaire, parce qu'effectivement, un des gros secteurs dans lesquels on retrouve beaucoup de satellites, c'est la défense. On envoie des satellites qui sont vraiment utilisés pour cette application-là. Moi, j'ai vu des applications, effectivement, où on capte des... Alors, ça, je parle de ce que j'ai pu voir par le passé, parce que j'ai travaillé en quelques années en entreprise avant d'être enseignant, de systèmes effectivement qui permettent de localiser des brouilleurs en fait. Alors, on m'a raconté une petite anecdote à ce sujet-là. Je crois que c'était en 2006, lors de la Coupe du Monde de football, et il me semblait que ça se passe en Égypte, pendant les actions chaudes en fait, pendant un match de foot. C'est arrivé que en fait les gens qui regardaient la télé avaient un écran noir. Enfin, c'était complètement brouillé. Et en fait, le diffuseur a essayé de vérifier par lui-même si ça venait pas de son système à lui, mais en fait non, il s'avérait que la piste la plus probable, c'était que quelqu'un effectivement essayait de brouiller la diffusion de l'émission du match de foot en direct avec ses propres installations. Donc l'entreprise où je travaillais précédemment développait un système qui permet de détecter où se trouve effectivement, enfin d'où partaient ces brouillages de signal, et effectivement ils ont pu déterminer avec une précision d'une cinquantaine de mètres d'où provenait cette source-là. Là, ici, c'est utilisé vraiment dans un cas pratique. Là, je vous donne une petite illustration de ça dans le cas d'un match de football, mais pour les guerres ce qu'on appelle la guerre numérique, voilà, on peut très très bien perturber le fonctionnement d'un pays et de ses réseaux de télécommunications en envoyant des brouilleurs spatiaux, au niveau des satellites. Et donc là, effectivement, développer des systèmes qui permettent de lutter contre ça, de les prévenir et de les détecter, c'est un plus.
Alors là, on parle des brouilleurs, mais est-ce que l'armée française utilise les satellites, par exemple, pour localiser des points stratégiques ou dans d'autres domaines ?
Alors, j'ai pas toutes les informations, bien sûr, à ce sujet-là, parce qu'effectivement, l'armée, c'est la grande muette. Hein, donc, très probablement, parce que déjà, c'est assez utilisé dans le milieu civil. Je pense que, sans aucun problème, c'est déjà très utilisé, voire beaucoup plus, dans le domaine militaire.
Et puis, dans l'armée, il y a aussi ce qu'on a vu apparaître depuis un certain nombre d'années, les drones. Mm-hmm. Justement, est-ce que vous avez déjà eu vent de comment se passent les drones ? On parle de pilotes qui sont, en fait, aux États-Unis, par exemple, et qui pilotent des appareils
C'est tout à fait possible, oui. C'est avec tout ce qu'on peut faire actuellement au niveau des télécommunications, effectivement, pouvoir piloter un drone à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, c'est tout à fait possible. On arrive bien à savoir ce qui se passe sur Curiosity, par exemple. Là, je donne l'exemple. On a lancé, il y a quelques années de ça, effectivement, un rover sur Mars, et on est capable de savoir quasiment en temps réel ce qui se passe sur Mars. C'est tout à fait possible de pouvoir piloter un drone à quelques dizaines de milliers de kilomètres du point de contrôle. Ouais.
Eh bien, on continue la discussion après une petite pause musicale sur Radio Phoenix. On va écouter Tomato Flower de Red Machine.
d'écouter Red Machine Tomato Flower sur Radio Phoenix, vous êtes toujours dans C'est pas faux. Avant la pause musicale, nous parlions de l'usage des satellites dans la défense.
Et justement, est-ce que la région Normandie accueille des entreprises de l'aérospatiale et de l'aéronautique ?
Alors, oui, alors tout le monde, quand on pense aéronautique, aérospatiale, on pense bassin toulousain. Effectivement, voilà, on pense à Airbus, on pense à toute la, tout l'écosystème de sociétés qui gravitent autour d'Airbus dans la région toulousaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et je trouve ça dommage que la région ne communique pas assez là-dessus, c'est qu'effectivement, la Normandie est une région très, très active dans le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Là, ici, bon, bah, alors, on est à la radio, c'est un peu compliqué, mais j'ai avec moi un petit bouquin, en fait, qui recense toutes les entreprises, les labos et les labos universitaires qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Et c'est un bouquin qui fait 200 pages. Un petit bouquin qui fait 200 pages, 150 pages, 200 pages. Donc effectivement, il y a énormément d'entreprises. Alors bon, c'est pas forcément le cœur de métier à la base, mais qui ont des clients dans le domaine de l'aéronautique. Alors je pense, alors vraiment dans le domaine purement aéronautique, aérospatial, on a à Vernon, on a Ariane Group. Voilà, Ariane Group qui à Vernon, dans l'heure, construisent des moteurs de fusée, les moteurs des lanceurs Ariane. Je pense à dans la région de Rouen, on a Thales. Thales LAS, le labo LAS, qui travaille sur des systèmes de radar, voilà, et pour la défense et pour, principalement pour la défense. Je pense à, aussi dans le bassin rouennais, il y a des entreprises comme Safran qui développent effectivement tout ce qui est des matériaux pour l'aéronautique et l'aérospatiale. Et si on se rapproche plus près de la Normandie, enfin du Calvados plutôt, à Caen, effectivement, on a quelques entreprises qui travaillent là-dessus. Alors je pense à Safran Data System qui est à Colombelles, qui travaille sur des systèmes qui permettent de vérifier à distance ce qui se passe dans un satellite ou sur un avion ou sur un missile, tout ce qui vole quoi, en gros. Et je pense aussi à une entreprise qui s'appelle Factem qui est à Bayeux. Alors c'est une toute petite entreprise, ils sont une centaine, mais ils travaillent sur des systèmes de communication au sein des cockpits entre les différents personnels navigants en fait. Voilà. C'est une société avec qui on s'entend, enfin on travaille beaucoup, qui développent des produits vraiment assez bien faits et dont on ne sait pas forcément qu'elles existent. Voilà. Il y a tout un écosystème dans le pays normand. Autour de l'aéronautique et de l'aérospatiale.
Alors, toutes ces entreprises, elles travaillent sur des systèmes différents, mais est-ce qu'elles sont amenées à travailler les unes avec les autres ?
Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ce sont des secteurs d'activité un peu stratégiques, donc effectivement, il y a peut-être plus ça se passe plutôt au point de vue national que local. Je pense à Ariane. Ariane, effectivement, travaille de manière assez proche avec nous, par exemple, avec l'INSEE Caen. Voilà. Donc, dans le cadre projet étudiant, par exemple, on a des projets étudiants au sein de l'INSEE Caen et Ariane fait appel à nous pour développer certaines briques. Voilà. Par des étudiants.
Alors, l'une des spécificités de l'aérospatiale, c'est que l'on ne peut pas partir dans l'espace juste pour tester un nouvel engin. Alors, comment fait-on pour tester quelque chose dans les vraies conditions les plus proches de ce qui se passe réellement dans l'espace ?
Alors là, je vais prendre le contexte de l'aéronautique, parce que je connais un petit peu mieux le cadre. Alors, ce que l'on fait, c'est que, en gros, on a un espèce de cahier des charges de ce que doit pouvoir supporter un avion. Donc on essaie de trouver des endroits dans le monde qui permettent d'avoir ces conditions-là. Donc effectivement, quand Airbus vend un avion à un de ses clients, il peut décoller soit du fin fond du Canada, dans le nord du Canada, ou soit dans le milieu du désert persique, par exemple. Donc effectivement, ce qui est fait, c'est qu'il y a des campagnes de tests qui sont faites dans les déserts, où on essaye de stresser l'avion au maximum, de le faire décoller dans les conditions vraiment très chaude ou très froide du coup aussi. Hein. Il existe la même chose aussi je crois qu'ils font ça au Groenland, il me semble. Donc donc on essaye de pousser l'avion dans ses retranchements et on essaye de voir si ça résiste. Voilà, donc là, on est encore en phase de test, donc avec des pilotes très expérimentés qui savent détecter en cas de problème. Donc le but, c'est vraiment de voir jusqu'où la machine est capable d'aller. Voilà.
Il y a des simulateurs aussi ?
Alors, il existe des simulateurs. Les simulateurs, donc, c'est avant la phase, effectivement, de construction, où on teste, effectivement, par conception assistée par ordinateur. On essaye de voir la résistance des différentes structures qui sont utilisées dans les avions, dans les satellites. Les satellites, c'est un peu les mêmes problèmes aussi, hein, mais sauf qu'ils sont soumis à d'autres contraintes. En particulier les rayonnements que l'on peut trouver dans l'espace. Voilà, donc il faut trouver des... Mais après, la simulation ne vaut jamais ce qui se fait en vrai. Donc la partie simulation permet d'enlever les gros problèmes et pour vraiment corriger ce qui se passe, vraiment les petits détails, là, rien ne vaut mieux effectivement les simulations en vrai. Enfin, les expérimentations réelles.
Et alors, comment vous faites pour suivre ces satellites et autres engins spatiaux quand vous êtes sur Terre et que eux sont envoyés dans l'espace? Comment on les suit et on les contrôle à distance?
Alors, c'est assez proche de ce que l'on fait pour les télécommunications, au final. Un satellite, c'est bardé de capteurs. Voilà, donc, il y a plein de capteurs qui permettent de réguler, connaître la température à l'intérieur du satellite, l'extérieur, les capteurs de pression, tout, enfin... Le satellite est capable de capter beaucoup d'informations de son environnement. Et tout ça, comme quand vous appelez quelqu'un, effectivement, vous communiquez vos données en parlant d'un point A à un point B. Là, c'est exactement le même principe, sauf que ce que dit le satellite dans le téléphone, ces informations sur la température, la pression, la vitesse, son altitude éventuellement, voilà.
Vous recevez des signaux, mais comment sont traités et analysés les signaux qui sont renvoyés par les engins spatiaux?
Alors, en général, ce sont des protocoles de communication qui sont internes. Enfin, c'est interne. Je veux dire, c'est une spécificité des entreprises qui fabriquent ça. Donc, c'est des normes de communication qui sont développées en interne des entreprises. Donc, c'est très majoritairement dérivé de ce qui existe déjà pour le téléphone, pour Internet. Voilà. Et l'idée, c'est que effectivement, on sache en temps réel où se trouvent les informations qui nous intéressent. Moi, j'ai travaillé avec Airbus en particulier, et sur un système effectivement pour suivre l'émission de l'A380. Donc, c'était il y a une dizaine d'années maintenant. Et effectivement, on avait développé un protocole de communication. Donc voilà, on avait fait nos simulations, on avait monté nos propres systèmes, et j'ai pu voir après du coup sur site. Et ça ressemble en gros une fusée qui décolle. Donc c'est une salle avec beaucoup d'ingénieurs qui sont rivés devant des écrans. C'est un peu la même chose aussi pour l'aéronautique, c'est-à-dire que voilà, ils ont tout un panneau d'écran avec toutes les informations qu'il faut, avec la vidéo de ce qui se passe aussi dans le cockpit et ce qui se passe à l'extérieur, et tous des cadrans à côté qui donnent tous les paramètres en temps réel. Tout est déporté de l'avion vers le sol, en fait. Et tout ça, c'est via des télécommunications, en fait, au final. Donc, toutes les informations de température, de pression, tout ça sont redescendues au sol par un signal de télécommunication. Et tout ça, c'est décodé par un système au sol, et c'est raffiché en temps réel, du coup, dans une salle de contrôle où on peut dire, attention, la température est un peu trop élevée, faire attention. Voilà.
Et est-ce qu'il y a des fréquences spéciales qui sont dédiées, ou est-ce que, par exemple, il peut y avoir des interférences entre des fréquences dédiées à des avions et d'autres à des satellites?
Oui. Alors effectivement, pour transmettre la formation, c'est sur des bandes de fréquences bien réglementées. Hein. Donc c'est autour de 5 gigahertz, il me semble. Voilà. Donc ce sont des bandes de fréquences où il y a encore assez peu de télécommunications grand public. Mais néanmoins, effectivement, on fait très attention à ce que soit le signal qu'on envoie pour contrôler les satellites déborde pas sur ce qu'il y a à côté, hein, pour pas brouiller ce qui se passe à côté. Et pareil, ce qu'il y a à côté doit pas brouiller non plus ce qui intéresse au niveau des avions. Voilà. Donc effectivement, oui, il y a bien c'est bien réglementé tout ça.
Alors, on l'évoquait en début d'émission, vous êtes responsable de la formation électronique, communication et système embarqué à l'ENSI Caen, mais qu'est-ce que c'est qu'un système électronique embarqué innovant?
Alors là, oui, ça c'est effectivement, c'est une question c'est assez vaste. Alors, pour résumer, votre cafetière, par exemple, ça peut être un système embarqué. C'est-à-dire que si vous avez une cafetière qui permet de vous programmer votre café à une certaine heure, en fait, à l'intérieur de votre cafetière, vous avez ce qu'on appelle un petit microcontrôleur, en fait, voilà, qui va permettre effectivement de déclencher une action quand on lui dit de la déclencher, en fait. Un système embarqué, c'est ça. C'est un système qui permet, qui a une certaine intelligence et qui permet de prendre lui-même des décisions. Voilà. Donc là, si je vous donne l'exemple d'une cafetière, mais effectivement, ça peut être un téléphone. Un téléphone, c'est un peu le même principe aussi. Hein. Voilà, il capte des informations de son environnement et on peut en déduire des informations à partir de ça. Voilà. Un système embarqué, si on résume un tout petit peu, c'est des capteurs, c'est une petite boîte qui fait du traitement, voilà, qui reprend les signaux issus des capteurs, qui les analyse, qui en tire des informations, et derrière, bah, y a une action qui est faite. Voilà. Pour donner vraiment un résumé très simple d'un système embarqué, c'est ça.
Alors, on peut retrouver aussi les systèmes embarqués à l'échelle de la robotique.
Ah, bien sûr, évidemment. Oui, oui. La robotique, effectivement, c'est un débouché de nos étudiants, effectivement. Alors, c'est pas encore majoritaire parce qu'on forme pas particulièrement à ça, mais tout à fait, ils peuvent tout à fait travailler dans le secteur de la robotique, l'industrie 4.0 aussi, hein, qui est la mécanisation des process, automatiser les process d'entreprise. Voilà, on a ces choses-là, ouais.
Les avancées scientifiques et technologiques sont en évolution constante. Mmh. Alors comment vous faites pour former vos étudiants aux enjeux de demain tout en suivant les avancées ?
Eh ben, c'est tout le problème. C'est pas le problème, mais disons que au sein des écoles, on est très au fait par les laboratoires de recherche en fait de ce qui va être fait d'ici une dizaine d'années. Voilà. Donc il y a pas mal de travaux en amont. Et au sein des écoles d'ingénieurs, on est aussi très très en contact avec les entreprises. Donc ils nous disent aussi leurs besoins et ils projettent un petit peu les besoins futurs. Donc effectivement, c'est un ping-pong entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, et on essaye de mixer ça pour essayer de donner le maximum de clés à nos étudiants pour pouvoir s'adapter aux besoins des 10 prochaines années.
Alors, en termes d'avancées technologiques, vous avez évoqué l'idée que l'avion puisse, enfin, reproduise les aspects des oiseaux à l'avenir, et est-ce qu'on peut imaginer que l'avion du futur, il sera contrôlé à distance ? Qu'il n'y aura plus de pilotes.
On parle de véhicules autonomes pour les voitures. Je ne vois pas de contrainte particulière à ne pas faire d'avions autonomes. Alors après, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes. Hein. On le voit déjà de toute façon avec les véhicules autonomes. Donc technologiquement, on sait à peu près faire, mais il se pose beaucoup de problèmes, effectivement, quand on met plusieurs véhicules autonomes ensemble, en fait. C'est là où interviennent les problèmes. Donc, d'un point de vue scientifique, ce qu'on peut faire pour les voitures, on peut le faire pour les avions. On le fait bien via les drones, déjà, hein, de toute façon. Mais par contre, effectivement, c'est gérer plusieurs véhicules autonomes, un réseau de plusieurs véhicules autonomes qui, je pense, est assez compliqué.
D'autant que dans le contrôle des avions, aujourd'hui, il y a aussi énormément de modifications de la trajectoire, par exemple, qui sont de façon automatique.
Exactement, oui. C'est vrai qu'effectivement, la majorité d'un vol, en fait, c'est de l'autopilote. Hein. C'est vraiment que les phases critiques où le pilote apporte sa valeur ajoutée. Et heureusement qu'il est là, d'ailleurs. Hein, parce que...
oui, parce que en cas d'accident ou d'incident.
Rien ne remplace effectivement l'expérience humaine. Hein, les systèmes numériques, effectivement, ont l'intelligence qu'on leur donne. Voilà. Donc, si pendant la conception, on ne pense pas à un cas particulier, vous êtes sûr que ça tombe dessus en vrai. Voilà. c'est ce qui arrive très couramment en science. Donc voilà, c'est pour ça qu'actuellement, tous ces systèmes-là sont très prometteurs, sont très, c'est très séduisant comme idée. Mais dans les faits, il y a besoin encore de pousser un petit peu la chose. Voilà.
Et enfin, pour terminer cet entretien, comment ne pas parler de Thomas Pesquet, le héros normand qui a voyagé deux fois dans la Station Spatiale Internationale. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des projets de télécommunications dans le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale qui ont pu servir, par exemple, pour l'ISS ?
Alors, pour l'ISS, moi, j'ai pas ça en tête, mais probablement certains lanceurs, effectivement, qui permettent d'envoyer des nouveaux résidents de l'ISS dans la station spatiale internationale. Il y a dû y avoir des choses sur lesquelles j'ai travaillé, ouais, je pense. Donc ça fait pas trop rêver, je sais, mais mais voilà, en partie, voilà, il y a des petites briques qui ont permis à Thomas Pesquet d'aller dans l'ISS. Voilà.
Et ben merci beaucoup Alexandre Skripczak d'être venu nous parler de l'ingénierie aéronautique et spatiale.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix.
Voici l'agenda scientifique de la semaine.
Jeudi 27 janvier de 18h à 20h, le Dôme et l'équipe de la planète Science Normandie vous accueillent lors d'un atelier pour construire une mini-fusée. Elle sera lancée en juin prochain à Vernon dans l'Eure à l'occasion d'une campagne régionale. Pour participer à cet atelier, inscrivez-vous gratuitement sur le site internet ledôme.info.
2022 est une grande année pour le média Futura, anciennement Futura Science. Ça fait 20 ans que ce média, pionnier de la vulgarisation scientifique en ligne, a lancé son site internet pour les curieux et les amoureux des sciences au sens large. Et pour fêter ses 20 ans, Futura se lance dans le monde du papier avec le mag Futura. Au programme 200 pages et 4 dossiers, quel mystère nous cache encore la Lune? Pourra-t-on bientôt tous guérir grâce aux gènes? Comment nourrir le monde sans le détruire? Et l'intelligence artificielle peut-elle devenir vraiment intelligente? Tout cela en images et en texte. Disponible depuis vendredi dernier chez tous vos marchands de journaux.
L'hôpital des Nounours est de retour au CHU de Caen. Du 26 au 28 janvier, les enfants sont invités à découvrir le monde médical en soignant leurs doudous. L'objectif de cette opération est de réduire les angoisses hospitalières, alors rendez-vous sur inscription de 9h à 16h au pôle des informations et de recherche en santé aux 2 rues des Rochambelles à Caen.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux sur l'espace et les satellites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
À 13h, vous retrouverez Edgar pour la Méridienne et merci à Guillaume qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Phoenix.